Et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous ?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
Comme tous les mercredis, nous vous emmenons sur les traces d'un voyageur d'hier célèbre. Aujourd'hui, c'est sur les pas d'André Malraux que nous partons, bien avant les voyages officiels en tant que ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle. André Malraux n'a cessé de sillonner le monde. À 20 ans, il a parcouru l'Europe en tous sens. À 22, il est parti à l'aventure en Asie, avec un passage par la case prison. Par la suite, il est devenu chef d'escadrille d'aviateur pendant la guerre civile espagnole. Tour à tour, pilleur de ruines, à Angkor, journaliste révolté en Indochine, héros de la lutte antifasciste, romancier, lauréat du prix Goncourt, essayiste, orateur, charismatique, André Malraux semble avoir eu plusieurs vies, mais dans chacune d'elles, le voyage avait sa place. C'est ce que nous allons découvrir avec Sophie Doudet, maître de conférences en littérature française à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Elle a publié sa biographie aux éditions Folio et elle va nous emmener sur les pas de l'auteur de La Condition humaine.
Monsieur le ministre, à 20 ans, aviez-vous un projet ? Lequel ?
Le projet, c'est une vie en marge, je souligne en marge. À quoi l'art devait concourir avec force ? C'était aussi, et c'était de la même façon, la découverte d'une autre civilisation, la volonté de découvrir une autre civilisation. Ça a été l'Asie, mais le sentiment d'un monde différent était quasi organique, avec une conception de vie qui s'y accordait et la volonté de découvrir cet autre monde qui, à ce moment-là, avait pour forme une autre civilisation présente, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Asie, maintenant, c'est presque du tourisme. À l'époque, c'était tout différent.
André Malraux, revenant à la fin de sa vie sur son parcours, ce qui l'a animé, sa fascination pour l'Asie qui l'a conduit à voyager très tôt sur les terres d'Asie. Sophie Doudet, quel rapport entretenait André Malraux avec le voyage ?
Alors, le voyage commence par l'immobilité. Je pense que si Malraux a eu à ce point envie de voyager, c'est parce que dans son enfance, il a été en quelque sorte prisonnier. Pas de façon formelle, puisque il a des parents, il a une vie tout à fait normale, il est d'origine petite bourgeoise, il a une vie banale.
Il est élevé par trois femmes. Son père part assez vite, se sépare de sa mère, et il est élevé par trois femmes.
Oui, mais il voit régulièrement son père, donc je dirais que aujourd'hui, ça pourrait être une vie, une situation familiale extrêmement commune, ça l'est moins à l'époque. Mais je pense que effectivement, c'est un enfant qui est coincé entre quatre murs, singulièrement dans la petite épicerie de sa mère à Bondy, et donc il est immobile.
Ouais. Ça n'est pas une enfance malheureuse, c'est une enfance ennuyeuse.
Oui.
En tout cas, il la jugera comme telle.
Exactement. Autant certains auteurs adorent leur enfance, l'ont idéalisée, autant lui, dès le départ, dit qu'il n'aime pas. Il n'aime pas l'enfance. Et d'ailleurs, dans ses livres, quand il y a des enfants, c'est pas en général dans des conditions extrêmement favorables. Elles sont souvent tragiques. Et donc, Malraux, il va chercher à voyager autrement. Et l'une des premières manières de voyager, c'est la lecture. Et donc, il va se plonger dans des livres. Et parmi les livres, il y a des livres d'aventure, comme tous les enfants de son âge, et des livres de voyage. Loti, Ségalin, notamment. Et donc, le voyage est finalement une sorte d'évasion, non pas pour voir d'autres pays avec une forme d'exotisme, même si ça a pu jouer évidemment chez lui, mais davantage une évasion qu'on pourrait appeler existentielle, voire métaphysique, tromper l'ennui de l'existence.
Il semble avoir eu plusieurs vies, je le disais, journaliste engagé, écrivain, il a combattu contre le franquisme après avoir été une figure de la gauche, il s'est associé ensuite au parti communiste, puis il s'est associé ensuite au général de Gaulle. C'est un parcours sinueux, parfois un petit peu dur à suivre, et peut-être que la clé pour le suivre, c'est ça, c'est l'anticonformisme et l'évasion, le besoin de s'évader sans cesse.
Oui, et de s'évader effectivement dans une forme, pas forcément de fuite, mais le désir de rencontrer, de se rencontrer. Et Malraux pense qu'il ne peut pas se rencontrer finalement dans sa situation d'origine, sa situation familiale et dans ce moment de l'enfance. En revanche, l'adolescence va être le moment où précisément il va pouvoir décoller. Et décoller à la fois sur un plan intellectuel, mais aussi évidemment commencer à trouver d'autres univers. Donc d'abord des univers culturels, et en plus ensuite, quand il va atteindre Paris, puisque très rapidement il va quitter sa famille, il va être autodidacte, il n'aura pas le bac, il va s'installer à Paris. Et déjà, c'est le premier premier voyage, passer de la province à Paris, arpenter la ville, découvrir des musées, voyager par procuration dans des musées comme par exemple le musée du Trocadéro. Ouais. Il va commencer à admirer des œuvres d'art et des œuvres qui viennent d'Afrique, mais surtout d'Asie, le musée Guimet.
Très tôt, un intérêt pour la culture, pour l'art. Alors comme vous le dites, il n'a pas encore le bac, il échappe au service militaire et à peine 18 ans, il fait feu de tout bois pour découvrir la culture et la culture d'autres pays à travers ces musées. Vous, Sophie Doudet, quand est-ce que vous avez rencontré, si j'ose dire, André Malraux? C'est par écran de télévision interposé, mais vous étiez toute petite.
J'étais toute petite.
Et vous vous en souvenez?
Je suis née en 70, donc je n'ai pas eu l'occasion de le connaître très longtemps, puisqu'il est mort en 76. Ouais. Et donc la première fois que je le rencontre, entre guillemets, c'est à la télévision. En fait, je suis toute petite, je suis en train de jouer avec une voiture. Et mes parents écoutent André Malraux au journal télévisé du midi. Il est en train de parler difficilement parce que à l'époque il est déjà très âgé et on me demande de me taire. Et donc je regarde ce monsieur de façon un peu éblouie, un peu étonnée, un peu fâchée aussi, pourquoi on m'empêche de jouer, de parler.
Vous vous en souvenez, c'est ça qui est étonnant.
Oui, très bien. Et c'est très étrange. Bon, et enfin, il y a aussi des signes de destin, de rencontre. Oui. Et puis après, évidemment, plus tard, mes parents m'ont encouragé à lire La Condition humaine, à laquelle je n'ai pas compris grand-chose parce que j'étais là aussi peut-être pas encore assez grande. Oui. Et puis, Malraux, je l'ai rencontré, je le rencontre tous les jours, au sens où, comme c'est un voyageur, il est fréquent de finalement d'arpenter ou de suivre les pas d'André Malraux quand on aime l'art, d'une chapelle romane à Angkor, puisque effectivement, quand j'ai eu l'immense chance d'aller au Cambodge, évidemment, il fallait que j'aie un rendez-vous avec mon grand homme.
Ouais, vous êtes passionné aussi pour ces livres, avant tout, au point de consacrer votre thèse. Vous avez fait votre thèse sur Malraux, sur ses écrits.
Sur ses écrits sur l'art, au départ, parce que d'abord parce que j'aime effectivement beaucoup l'art aussi, puis c'était un sujet qui était assez peu abordé à l'époque et qui était sans doute moins polémique que les aspects, je dirais, plus politiques de Malraux. Ouais. Il a été et il est encore souvent contesté, y compris dans le domaine de la littérature. Et c'est vrai que les voyages et l'art, puisque c'est intimement lié, il l'explique dans l'extrait que vous avez proposé en début d'émission, il y a un lien entre sa passion sur l'art et le désir de rencontrer l'autre. Mmh. Et pour rencontrer l'autre, il faut voyager. Mais cette altérité, c'est pas forcément des personnes. Souvent, quand le voyageur voyage, c'est pour rencontrer, discuter, communiquer. Je ne dis pas que Malraux ne l'a pas fait. Il a eu quand même un obstacle qui était la langue. Sa femme, souvent, a joué le rôle d'interprète et de traductrice. Mais c'est surtout finalement l'altérité d'une autre civilisation, d'autres modes de vie, mais surtout d'autres conceptions du monde. C'est pas tant finalement l'alimentation ou les costumes qui le fascinent, ce qu'on pourrait appeler l'exotisme, mais davantage une autre manière de vivre en termes par exemple de temporalité, la lenteur de l'Asie, ou tout simplement un rapport de l'homme au monde qu'il va chercher ailleurs pour se décentrer, mais aussi pour se retrouver lui-même, savoir qui il est.
Alors, on va voir aussi que ses envies de voyage et sa façon de voyager va évoluer au fil du temps, parce que les premiers voyages que l'on va raconter ne sont pas forcément les plus glorieux. Revenons à ce Malraux qui a une vingtaine d'années, qui se passionne pour l'art, pour les ailleurs, pour les pays lointains. Il se marie très jeune, il a 20 ans, il épouse Clara Goldschmidt, riche héritière. Et là, pendant un an ou deux, ils vont voyager en Europe. Mais alors, ils vont voyager, effectivement, en se tournant vers la culture et vers l'art, mais de façon très luxueuse, dans un premier temps. Et en mettant, puisque sa femme Clara est riche, il prend toute la fortune de sa femme. Il met ça sur des actions mexicaines à l'époque. Il boursicote, on pourrait dire, à l'époque. Et il mène grand train aux frais des mineurs et des ouvriers mexicains à l'autre bout de la planète.
Alors, je pense que ça ne le préoccupe pas beaucoup à l'époque.
À l'époque, la conscience politique n'est pas vraiment là encore.
Non. Un peu chez Clara. En tout cas, elle a quelques doutes sur la qualité de trader de son mari. Alors, ils voyagent surtout en fonction de l'art. Et effectivement, ils ont de l'argent. Donc, ils vont prendre des trains très luxueux. Ils vont d'ailleurs, entre parenthèses, se connaître au sens, je dirais, biblique du terme.
Dans les trains,
en destination de Florence. Donc, il y a effectivement des voyages qui sont des voyages où ils se rencontrent eux-mêmes, puisqu'ils sont très jeunes et ils partent quasiment en voyage tout de suite. Et d'autre part, ils vont finalement aller se confronter aux œuvres d'art. Parce qu'au départ, il y a un goût pour l'art indéniable, mais à part les musées parisiens, Malraux n'a pas vu grand-chose. Et donc, il rêve tout simplement de voir les œuvres d'art en réalité, de les comparer. Et ils arpentent les musées, le musée des Offices, par exemple, évidemment, à Florence. Ils vont aller aussi en Belgique, ils vont aller dans le nord de l'Europe. Ouais. Et tant qu'ils ont de l'argent, ils en profitent.
Mais alors, ils se sentent, même quand ils ont encore de l'argent, ils se sentent déjà un peu à l'étroit. Hein. Ils rêvent déjà d'ailleurs un peu plus lointain, oui. D'exotisme un peu plus lointain que l'Europe.
Alors ils vont aller, mais ça c'est plutôt effectivement dans les années 30, ils vont traverser finalement toute l'Europe et ils vont aller vers l'Orient et ils vont aller dans des villes mythiques, du côté d'Ispahan, ils vont traverser la Turquie. Et alors ce qui est assez fascinant, c'est que bon, vous disiez, vous avez tout à fait raison qu'ils aiment le luxe, Malraux ne s'en est jamais caché, donc tant qu'il a eu de l'argent, il l'a largement dépensé. Mais en même temps, Clara dit dans ses mémoires qu'il partait sans avoir jamais l'argent du billet de retour, ce qui évidemment déterminer une forme d'aventure, d'improvisation et finalement l'aléa des rencontres. Et ça, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Et dans l'extrait que vous avez cité au départ, c'est très intéressant de montrer finalement la différence qu'il fait entre le vrai voyage et le tourisme. Ils ne sont pas véritablement touristes. Ouais. Ils se mettent en jeu aussi dans la rencontre.
Alors, ils se mettent en jeu et puis il y a cette façon de financer ces voyages à travers l'Europe, à travers donc ces actions mexicaines, sauf que un krach boursier, en tout cas un effondrement des actions mexicaines, font qu'ils perdent tout. Il a 22 ans à ce moment-là, oui. Malraux, et il est ruiné, sa femme également. Et alors, par contre, il n'envisage pas une seule seconde de se mettre à travailler.
Non, c'est d'ailleurs une réplique assez connue. Vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler. Et certes, non, Clara ne l'a pas envisagé non plus. Elle n'a pas pu l'imaginer. En revanche, elle l'a imaginé travailler éventuellement pour ce que Malraux, évidemment, a refusé aussi, parce qu'il n'est pas extrêmement moderne de ce point de vue-là. Et donc, il a une idée qui est une idée assez originale et qui peut paraître complètement folle aujourd'hui. Il sait que les statues Khmer, notamment les statues d'Asie, se vendent une fortune auprès des collectionneurs européens à l'époque, notamment allemands. Et il décide d'aller tout simplement au Cambodge, donc dans l'Indochine, et de prélever un temple.
Vous dites prélever avec pudeur, mais c'est une sorte de pillage.
Une citation en fait. C'est Clara et Malraux qui parlent de prélèvement. Évidemment, il s'agit de décrocher et de décrocher au burin, hein, donc ouais. Avec vraiment beaucoup de force, des morceaux de statues. Les statues sont en trois morceaux qui sont extrêmement lourds et il décide d'aller récupérer des pierres pour les vendre. Et il dit, on va tenir à peu près 3 ans comme ça.
Ouais. Voilà donc le jeune couple Malraux parti dans l'insouciance avec un projet pas franchement moral ni légal. Nous allons voir que l'aventure va tourner court.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Go, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à notre route. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Viens vite, suis-moi mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger,
seront loin d'ici. Dans une heure, si tu les veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
C'était Ginger, Feu Chatterton sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Voyager, à l'époque, ça voulait vraiment dire quelque chose. Dire qu'on n'allait pas en Indochine, en avion, en, je ne sais pas moi, un jour et demi. Ça mettait 28 jours. Et c'était très extraordinaire, parce que chaque étape révélait un monde. Au cours de la traversée, j'ai éprouvé le besoin de me noyer. J'ai perdu là à peu près tous mes papiers. Et peut-être aussi, enfin, en ai-je gardé une espèce d'angoisse. Ça m'a ensuite un peu poursuivi l'idée que, tout de même que ça s'annonçait assez mal, ce voyage. Ensuite, mon Dieu, il a pris des allures assez normales. Nous avons été à Hanoï, nous avons été reçus, non pas officiellement, mais tout de même, comme des collègues par les gens de l'école française d'Extrême-Orient. Et je dois dire que tous les gens de l'école d'Extrême-Orient ont été éblouis par l'érudition d'André.
Éblouis par l'érudition d'André, il s'agit bien sûr d'André Malraux, c'était la voix de Clara Malraux racontant en 1977, donc bien après cette épopée au début des années 20, ce départ avec André Malraux pour l'Indochine en 1923 plus exactement. André Malraux a alors 22 ans. Et son projet, Sophie Doudet, n'a rien de très glorieux. Il intrigue vraiment. Et pour aller prendre ses statues sur les temples d'Angkor, il se fait passer pour un archéologue. Il ment en fait à différents organismes pour obtenir les autorisations nécessaires.
Alors, il enjolive la réalité. Donc, il a prévu, son projet, c'est de trouver un temple sur ce qu'on appelle la Voie Royale, qui sera plus tard le titre d'un de ses romans. La Voie Royale, c'est une sorte de chemin dans la jungle, qui n'est pas tracé, autour duquel ont été construits des temples à l'époque Khmer. Et donc, un certain nombre de temples ont été évidemment répertoriés, inventoriés par les services français, par les archéologues, et d'autres, pense Malraux, a raison, sont encore dans la jungle. Donc l'objectif, c'est de trouver ces temples et il a suivi rapidement des études, ou en tout cas il a, de façon assez épisodique, suivi des cours en langues orientales et il a consulté en fait des livres. Donc il n'est pas archéologue, mais clairement il est érudit dans ce domaine-là. Et Malraux est très doué, c'est-à-dire que dès qu'il lit un livre, il est capable de sonder les livres et très rapidement il s'approprie les connaissances de façon assez hallucinante, lumineuse. Et donc il a repéré un temple qu'il a fixé comme objectif. Donc ils partent, ils font des bagages de façon assez délirante, des casques de ouais. colons, des scies, des marteaux, ouais. et ils obtiennent une sorte de sauf-conduit qui valide en fait leur compétence ou en tout cas leur identité d'archéologue. Mais évidemment, c'est un subterfuge. Donc Malraux ne compte absolument pas faire des fouilles archéologiques. Il compte, ce qui est souvent le cas d'ailleurs à l'époque, récupérer des pièces et les ramener.
Ouais. Ce qui est particulièrement choquant aujourd'hui, l'est un peu moins à l'époque, beaucoup le font, c'est un petit peu moins réglementé cette façon d'aller piller des pièces archéologiques pour les vendre aux riches collectionneurs.
Si vous promenez dans tous les musées de Paris aujourd'hui, si vous allez au Louvre, vous avez une section Égypte qui peut de ce point de vue-là poser problème, et surtout si vous allez au musée Guimet, il est entendu qu'il y a beaucoup de têtes, notamment de têtes arrachées qui ne sont pas en entier et qui à l'époque ne relève pas du vol. Donc Malraux n'ignore pas, évidemment, qu'on peut faire autrement de l'archéologie.
Oui,
et surtout,
ça.
Il y a quand même une volonté personnelle, c'est-à-dire qu'il veut vendre pour obtenir de l'argent. Il ne s'agit pas d'aller admirer des têtes mères, même si ça peut l'intéresser parallèlement. Et d'autre part, effectivement, il a des usages ou des procédés qui, évidemment, ne sont pas tout à fait, je dirais, inconnus à la plupart des archéologues de l'époque.
Alors, pour cette expédition, ils sont trois. Hein. Il y a donc les deux Malraux. Qui est le troisième ?
Alors, le troisième, c'est l'ami, le meilleur ami de Malraux, qui s'appelle Louis Chevasson. Et que Clara surnomme l'incolore, parce qu'effectivement, il est, on va dire, assez transparent.
Je vous propose d'entendre le récit de cette aventure dans la jungle cambodgienne par Clara Malraux.
Nous sommes partis pour Banti Aisraï. Nous avons chargé des chars à bœufs de caisses. C'est dans ces caisses que nous voulions mettre les objets que nous allions nous approprier. Le voyage a été assez dur. Nous étions à cheval, André et moi. Nous nous sommes fait conduire à travers la brousse jusqu'à l'endroit où nous avons deviné, plus que vu, une sorte d'enceinte, écroulée d'ailleurs en grande partie. Et nous avons pénétré à l'intérieur de la première enceinte. Il y en avait deux. Et à l'intérieur de la seconde, il y avait, petit mais merveilleux, le plus beau temple qu'on puisse rêver.
Nous sommes donc à la mi-décembre 1923 et le couple Malraux avec le meilleur ami d'André Malraux attaque à la scie les statues d'un temple cambodgien qui a l'air superbe et que vous avez vu hein, d'ailleurs parce que vous êtes allé sur les traces d'André Malraux, Sophie Doudet, donc vous avez vu ce lieu. Il est encore beau aujourd'hui malgré les coups de scie.
Alors il a été intégralement reconstruit, notamment par la France hein, pour le coup, ça relève d'un petit rachat. Il est magnifique. C'est un petit temple, par rapport au à d'autres proportions, par exemple dans Corvat. Et il est en grès rose. Donc effectivement, il a une couleur qui est un peu rosée. Et surtout, il y a énormément de sculptures, et notamment des apsaras, c'est-à-dire des femmes qui dansent. Et Malraux l'a très bien choisi. Sauf qu'évidemment, si vous y allez aujourd'hui, la route est parfaitement dégagée, et le temple est parfaitement ordonné. Alors qu'à l'époque, comme le rappelle Clara, il est dans la jungle. Et d'autre part, donc tout est envahi. Et d'autre part, il est partiellement détruit. Ouais. Alors, je précise aussi une chose, c'est que vous disiez tout à l'heure que Malraux avait pas le droit de le faire. Effectivement, parce que les réglementations ont changé peu de temps avant l'arrivée de Malraux, en 1923. Et on le lui rappelle bien, ces nouvelles réglementations, on lui rappelle que les fouilles sont autorisées, mais qu'il faut laisser sur place ce qu'on trouve.
Donc il le savait.
Il le savait.
Il n'a pas respecté cette consigne et de retour à Phnom Penh, eh bien ils sont arrêtés. Ça fait pas 3 ou 4 mois qu'ils sont partis, que l'aventure tourne court. Les statues évidemment qu'ils avaient sciées sont confisquées. Ils sont arrêtés et jugés et Malraux est condamné à 3 ans de prison ferme.
Oui. Et Chevasson à 18. Clara Malraux n'est pas condamnée parce qu'on considère que la femme doit suivre son mari. Et donc, elle ne fait pas l'objet d'une condamnation. Et c'est une condamnation qui est relativement lourde pour l'époque et, je dirais, pour le grief concerné. Et on peut s'interroger sur, finalement, cette mésaventure. Au sens où on trouve très vite les caisses. À peine arrivées sur le bateau, on leur demande d'ouvrir les caisses. Donc, on pense qu'ils ont été dénoncés. Et donc, il y a à la fois, évidemment, le respect du droit. C'est indéniable. Ils ont volé des objets d'art. Mais il y a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus grave et plus politique. C'est que les Malraux détonnent dans la communauté des colons en Indochine par leur origine sociale, par leur comportement, sans doute aussi par leur marginalité vestimentaire. Clara est juive. L'antisémitisme est très fort à l'époque. Et d'autre part, ils passent pour des communistes, ce qu'ils ne sont pas encore, mais qu'ils vont devenir peut-être précisément par ce qu'ils vont vivre et par l'injustice, parce que pour eux, c'est une injustice.
Ah bah, toute sa vie, s'il y a une constance, effectivement, il a toujours été du côté de celui qui était faible et qui se faisait maltraiter par l'autre. Hein. C'est un peu une constante dans ses combats à André Malraux. Toujours est-il que là, c'est lui qui est en mauvaise passe. Il est enfermé, en tout cas condamné à faire de la prison. Pour le moment, il est assigné à résidence dans un hôtel, mais bientôt, il n'a plus les moyens de payer cet hôtel. Comme sa femme, Clara, a pu rentrer à Paris, elle n'a pas été condamnée. Elle va en coulisses essayer d'agiter le milieu culturel des écrivains. Elle va appeler à son secours des noms connus hein, comme André Gide, Louis Aragon, André Breton, François Mauriac qui vont signer des pétitions. Je ne sais pas si c'est ça qui va réussir à sortir Malraux d'affaire. Toujours est-il que le jugement va être transformé.
Alors, il a fait appel quand il a eu la première condamnation et le procès va être dépaysé. C'est-à-dire que le deuxième procès va avoir lieu à Saïgon. Et donc, ça change. Et des pièces nouvelles vont être apportées au dossier. Donc, il va se battre. D'autre part, Clara Malraux, en rentrant en Europe et en France, va faire la connaissance d'un avocat qui s'appelle Paul Monin et qui est très au fait de la situation en Indochine et qui se présente comme et qui est présenté à raison comme l'avocat des Annamites, donc qui est très politisé et qui va l'aider.
Les Annamites, c'est au niveau du Vietnam actuel, hein, c'est les habitants d'une partie du Vietnam actuel.
Qui était la région qu'on appelait la Nam et qui sont en fait ce qu'on appelle aussi les indigènes à l'époque, c'est-à-dire les populations locales et qui sont exploitées. Il faut rappeler quand même que c'est une colonie et c'est une colonie avec une très forte répression, avec une exploitation économique et politique qui et souvent n'est pas encore enseignée aujourd'hui en France, mais qui, quand on s'y penche un peu, fait froid dans le dos. Et c'est aussi ça que les Malraux vont découvrir à l'occasion du procès, c'est-à-dire que le procès est égoïstement une rencontre personnelle avec l'injustice, mais il se trouve que comme ils sont en résidence surveillée et que personne ne leur parle, puisque toute la population coloniale locale leur tourne le dos et les injuries, enfin je veux dire les méprises, ils vont davantage observer autour d'eux ce qui arrive. Et notamment, ils vont rencontrer des serviteurs, des gens qui les servent, mais qui finalement les ouvrent sur un plan politique à la cause annamite et aux conditions de vie des gens sur place.
Voilà, alors la peine va être commuée en une peine avec sursis, donc Malraux va pouvoir rentrer en France, mais il rentre vraiment transformé et avec la volonté d'y retourner, mais cette fois-ci pas pour se livrer à un pillage archéologique, mais pour aider les peuples qui sont oppressés, opprimés dans cette région du globe en Indochine. Je vous propose d'écouter André Malraux parler de cette prise de conscience en Indochine et il la raconte beaucoup plus tard.
Alors je pense que dans ma vie, une chose qui a joué un rôle capital, c'est l'Indochine. Je me suis trouvé avec, lié à moi, les Indochinois. Et à ce moment-là, quelque chose a complètement basculé. C'est pas que j'étais d'un autre côté avant. L'autre côté, c'était l'indifférence. Mais le lien avec, disons, pour simplifier, ce qui était exact à l'époque, les opprimés, est certainement né à ce moment-là.
Alors, Malraux retourne en Indochine. Et alors cette fois-ci, il va avec d'autres, notamment l'avocat qui l'avait aidé, Monin, il va sortir un journal, l'Indochine, qui a justement pour but de lutter contre les injustices dont est victime une partie de la population.
Oui, c'est donc d'abord ça sera l'Indochine, puis quand il sera arrêté, il reparaîtra, mais de façon plus courte sous le titre l'Indochine enchaînée. Donc Malraux va devenir journaliste. Il était déjà écrivain et vous l'avez rappelé, s'il a pu être défendu par une pétition, c'est qu'il avait déjà donné quelques signes de son génie littéraire, relativement fugace malgré tout, assez peu des petits essais.
À ce moment-là.
Oui. Et quelque chose aussi qui joue entre son premier voyage et son deuxième voyage, c'est qu'il signe aussi un contrat. Et un contrat littéraire avec Grasset. Donc, il arrive sur place et il va être journaliste. Oui. Et là, son journal va être un journal qui, tira assez peu d'exemplaires, mais qui a pour objectif à la fois de développer la cause annamite, mais pas du tout l'indépendance. Malraux n'est pas révolutionnaire. Il est présenté comme quelqu'un de gauche ou d'extrême gauche, mais à l'époque, je dirais qu'il est plutôt quelqu'un qui veut réformer la présence coloniale française et qu'il la trouve absolument désastreuse.
Il n'est pas anticolonialiste,
non.
Il est plutôt pour une sorte de protectorat plus libre.
Exactement. Donc, il n'y a pas une volonté de sortir, si vous voulez, du giron, entre guillemets, français. Mais par contre, il y a une volonté développer l'économie et de faire participer les populations locales à l'économie de telle façon à ce que le pays puisse bénéficier, en fait, de tout simplement du travail et des forces de travail et de l'intelligence des Annamites. D'autre part, il milite aussi pour une forme d'égalité et surtout une formation, c'est-à-dire pour une éducation. Or, les Annamites ne peuvent pas voter à l'époque, contrairement à d'autres populations sur place qui ne sont pas forcément les Français. Les Hindous, par exemple, ont le droit de voter. Et donc, il y a des situations d'injustice profonde. Et notamment, ce qui va l'intéresser dans l'Indochine, puis dans l'Indochine enchaînée, c'est tout ce qui est le calcul foncier et immobilier, notamment pour la vente des terres menée par les colons. Et il se rend compte, en fait, qu'on propose aux Annamites d'exploiter des terres et de les mettre en œuvre, ces terres, c'est-à-dire tout simplement de les rendre arables, de les rendre cultivables, et ça demande un effort démesuré. Il faut relire, par exemple, le barrage contre le Pacifique de Duras, c'est exactement la même histoire. On propose à des petits colons ou à des Annamites d'exploiter cette terre, et une fois qu'elle est exploitée, on les empêche de devenir propriétaires. Et l'Indochine va dénoncer cela dans des articles, et donc va évidemment inquiéter le pouvoir en place, qui va déclencher, ça va déclencher une hostilité remarquable.
Ouais, lui qui ne voulait pas travailler, c'est un vrai travail hein, qu'il fait, journaliste, en plus un travail exposé, risqué, parce qu'effectivement il va à l'encontre de l'ordre établi et du pouvoir en place, en prenant la défense de ces populations opprimées. Ça ne durera pas très longtemps, de toute façon il a quand même en tête cette idée de devenir écrivain, hein. Il a envie de marquer aussi la littérature, il y arrivera, on va le voir dans la suite de l'émission. Il fait aussi un petit détour par la Chine. Alors là, on entre un peu dans le côté, allez, disons le mot, un peu mythomane de Malraux. Il a entretenu sa légende. Sur la Chine, on ne sait pas exactement. Il a l'air d'y être passé quelques heures, quelques jours. Lui dit y être resté beaucoup plus longtemps, avoir joué un rôle important dans l'histoire du pays à ce moment-là. Qu'est-ce que vous, qui avez publié cette biographie de Malraux chez Folio, retenez de ce morceau-là ?
Alors, le premier voyage est très bref, effectivement. Il est lié au fait que Malraux et Clara vont aller à Hong Kong pour aller chercher des caractères d'imprimerie, puisque l'Indochine a été interdite. Et donc, l'imprimeur a été fermé, et donc ils n'ont plus le droit d'imprimer. Et il n'y a plus de caractères. Et donc, ils vont aller chercher des caisses de caractères d'imprimerie. Donc, et à ce moment-là, Hong Kong subit une grève, qui est une grève anticoloniale, et qui sera évidemment au cœur de son premier roman qui s'appelle Les Conquérants et qu'il va écrire au retour d'Asie. Mais si on regarde, quand il rentre en France et qu'il va faire paraître Les Conquérants, un peu plus tard, hein, en 1927, tout le monde pense qu'il a été un représentant communiste, qu'il a intégré les hauts grades communistes et qu'il a été finalement révolutionnaire en Chine. Ce qui, à l'époque, n'est pas le cas. Il laisse dire. Ouais. Alors, est-ce qu'il ment ? Oui. Il ment au moins par omission. Et je pense qu'il faut imaginer ce qui se passe. C'est qu'en fait, il arrive avec une sorte d'aura. Une aura qui est celle d'un révolutionnaire, celle d'un journaliste, celle d'un écrivain génial, même s'il n'a pas encore donné ses preuves. Et donc, on dit des choses sur lui. Ouais. Et l'emballement médiatique fait aussi beaucoup partie de la mythologie de l'aventurier.
Ouais. Malraux épousera d'autres combats de façon plus réelle par la suite, comme l'antifascisme. Il va prendre part à la guerre d'Espagne. Vous allez nous le raconter, Sophie Doudet, dans un instant.
I saw. Now I decide to talk and respond. It's over now. It keeps me awake, believing big breaths. Even if I'm a dropout. Me more. I admit I get confused when you shout at me. I used to think what for. Has broken your patience and unspoken words make me feel like I'm unwelcome. If I had the choice, I'd end my way of life to misspend your time, but could you lend me a hand? It keeps me awake, believing big brains, even if I'm a dropout. I get confused when you shout at me. Are you
C'était Saturday Canine sur France Inter.
Messieurs, le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux pour son roman La Condition Humaine.
Il est d'usage, d'après tout prix littéraire, d'expliquer parfois et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Les ayant rencontrés dans ma vie, dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris.
Nous sommes en 1933. Malraux reçoit donc le prix Goncourt pour son livre La Condition Humaine. Sophie Doudet, que raconte ce roman ?
Alors, c'est un roman politique qui retrace en fait un épisode de l'histoire de la Chine en 1927. C'est une insurrection qui a lieu à Shanghai et qui est une insurrection communiste contre en fait à la fois les colons, mais aussi contre finalement la bourgeoisie chinoise qui a fait alliance avec les colons. Et cette insurrection va être écrasée à la fois par la puissance des capitalistes, mais également aussi par le fait que les communistes de l'Union soviétique de la Russie demandent aux insurgés de rendre les armes et donc finalement autorisent la répression.
Les voyages de Malraux vont irriguer son œuvre. On retrouve ces expériences, y compris celle d'Angkor avec les scies pour couper les statues qu'on évoquait. Ça donnera lieu à un autre roman, La Voie royale. À chaque fois, ces voyages ont irrigué son écriture et l'ont inspiré.
Oui, la Chine est donc présente dans La Condition Humaine. Il a visité Shanghai à l'époque, donc il est retourné en Chine entre-temps avant 33 et donc il a visité la ville. Après, elle y est pas extrêmement présente, donc je dirais qu'elle y est de façon symbolique. Shanghai est décrite comme une sorte de carte avec des paysages qui sont des paysages asiatiques, mais c'est pas véritablement le sujet. Le sujet, c'est véritablement un sujet politique et métaphysique.
Ouais. Comment vous décririez le style d'André Malraux, l'écrivain qu'il était?
Alors, le journalisme a sans doute compté dans l'écriture des romans, c'est-à-dire qu'on a souvent comparé son écriture à une écriture journalistique avec des télégrammes, avec une entrée en matière dans La Condition Humaine, donc on a à peu près tous en tête, Chen soulèverait-il la moustiquaire. Donc on a un côté à la fois journalistique et un roman policier. Il y a une écriture qui est aussi lyrique, donc une écriture à la fois sèche, dialogique, qui est combinée à un lyrisme dans les grandes scènes, qui sont les grandes scènes de dévouement et d'héroïsme. Donc finalement un style qui est à la fois parfois ampoulé et qui emporte, qui est extrêmement émouvant, et en même temps un style qui est sec et parfois extrêmement violent.
Contrasté donc. Oui. Quand il reçoit son prix Goncourt en 1933, au même moment, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Malraux est vraiment projeté dans ce siècle, il le vit, il y prend sa part, notamment dans la lutte antifasciste. Il va rencontrer Goebbels, c'est ce que l'on raconte, c'est vrai ou pas?
Alors non, il n'arrive pas à le rencontrer. En revanche, il va aller en Allemagne avec Gide pour porter une lettre pour libérer Thälmann, qui est accusé injustement d'avoir tenté d'incendier le Reichstag. Et il le rencontre pas directement. Par contre, il fait partie d'un groupe d'écrivains qui sont souvent communistes, mais qui ne le sont pas tous. Ils sont ce qu'on appelle compagnons de route à l'époque, qui participent à la lutte antifasciste. Mmh. Et là, dans ces années 30, il va à la tribune et c'est le moment où il sera le plus proche des communistes, même si, encore une fois, il ne prend pas sa carte au parti.
C'est ça, il ne prend pas sa carte au parti, mais il va en Russie, il participe. Alors, quel lien, comment il faut voir, quel lien il noue vraiment avec les Russes communistes à cette époque?
Alors, il noue assez peu de liens, je dirais, avec les têtes politiques pensantes de l'époque. La seule personne avec laquelle il aura sans doute une proximité, puis après, évidemment, un écart violent et une rupture violente, c'est Trotsky. Et donc, quand il va en URSS, c'est déjà Trotsky est déjà banni, il est déjà refusé par les autorités. Et d'ailleurs, c'est une des marques qui est relativement connue du voyage de Malraux en Russie. Lors d'un repas, il va lever son verre et lever un toast à Trotsky, qui nous manque à tous. Et évidemment, ça jette un peu un blanc.
Pas tellement bien vu à l'époque.
C'est pas quand même, c'est pas un révolté. Il y va avec une forme de curiosité. Il sent très bien, évidemment, que c'est c'est un régime qui est dictatorial. Jusqu'à un certain point, il reste, si vous voulez, dans les cadres qui sont ceux de la visite extrêmement organisée à l'époque. Mm-hmm. Mais il écrira pas Retour du RSS. C'est pas Gide. Il va écrire un carnet qui est paru il y a peu de temps, qui s'appelle Carnet du RSS, où il retrace un certain nombre d'anecdotes. Il va chercher aussi des raisons de renouveler son imaginaire littéraire, parce que l'Asie, c'est fini après 33, et donc il va essayer, il imagine à l'époque, écrire un livre sur les centrales pétrolifères, sur Bakou, etc. Il renoncera.
Et puis, il va participer ensuite à la guerre d'Espagne. Alors, de quelle façon ?
Alors, Malraux est déjà assez proche de l'Espagne. Il est déjà allé en Espagne avant la tentative de coup d'État le coup d'État de Franco, pour des raisons qui sont des raisons politiques. C'est-à-dire que comme écrivain antifasciste, il est amené tout simplement à aller en Espagne et à rencontrer notamment des écrivains espagnols qui sont républicains. Puisque comme en France, l'Espagne est passée dans un régime qui est un régime de Front Populaire, et évidemment, quand il apprend que Franco décide de lutter et de faire tomber la République, immédiatement, dès le lendemain, il sera en Espagne auprès de ses amis et ses écrivains pour d'abord essayer de prendre des informations et d'autre part, lancer une forme de résistance. Ouais.
Alors, il va devenir chef d'escadrille d'aviateurs. Il n'était pas aviateur du tout, il n'avait jamais piloté d'avion de sa vie, mais il devient chef d'escadrille d'aviateurs. Quel rôle doit jouer l'escadrille qu'il dirige ?
Alors, il n'était pas chef d'escadrille, il a même pas, si je me souviens bien, le permis de conduire.
Oui, c'est ça.
Donc c'est un symbole qui va en Espagne, qui joue aussi son destin. Je pense que Malraux, là, ne voyage pas, il est aventurier. Et il, pour la première fois, je pense, et peut-être pour l'une des seules fois dans sa vie, je dirais que l'homme de lettres, l'homme intellectuel et l'homme d'action fusionnent. Ce qui est quand même le grand fantasme de Malraux, qu'il ira d'ailleurs au passage essayer de réincarner dans sa trajectoire avec De Gaulle. Et donc, en Espagne, il veut à la fois défendre la République, il veut jouer, je pense, son destin, et la solution qu'il trouve, parce qu'il a compris qu'une partie de la guerre allait se jouer avec l'aviation, c'est de négocier auprès de Blum en sous-main, puisque on est dans une politique de non-intervention et de pacifisme, des avions, qui sont souvent des avions d'ailleurs au passage assez vétustes, etc. Et il monte de briques et de broc une escadrille avec des mercenaires, c'est-à-dire des gens qui va payer qu'il va recruter pour faire un certain nombre d'opérations. La plupart sont destinées à ralentir, en fait, l'avancée des franquistes dans la région de Madrid.
Alors, on l'a dit, hein, lui ne pilote pas les avions, ça ne va pas l'empêcher de prendre sa part, à en croire en tout cas le récit de l'un de ses mercenaires, l'aviateur et écrivain Paul Nothomb, qui a participé à cette aventure.
Il connaissait rien à l'aviation. Il aimait l'aviation. Il a participé comme mitrailleur, mais il a participé pour dire qu'il était avec nous. Moi, j'ai volé plusieurs fois avec lui. Même quand il ne servait à rien, nous étions heureux de l'avoir dans l'avion. Il faut dire que c'était des gros avions. Nous étions à 7 dans ces avions-là. Et j'ai beaucoup de souvenirs de Malraux, souvent dans la carlingue, quand on passait à travers des barrages de DCA où ça sautait de partout. Eh bien, on s'échangeait des regards. Et ça donne un lien, ça, je vous garantis. Plusieurs fois, il prenait la place d'un mitrailleur. Il y avait 3 places de mitrailleurs dans ces avions, un devant, un derrière, en dessous, la cuve. Malraux le faisait. Il a raconté, d'ailleurs, le sujet, et c'est tout à fait authentique. Mais on me pose la question, est-ce que Malraux ne savait pas piloter un avion ? Il ne savait pas conduire une voiture non plus, ni même rouler à vélo. Ça n'empêche que s'il n'y avait pas Malraux, il n'y aurait pas eu d'escadrille. C'est lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui la maintenait par son seul prestige. C'était une escadrille qui n'avait aucune espèce de discipline. Donc ça ne marchait que par Malraux, parce qu'il y avait, comme on dit maintenant, un charisme.
L'écrivain Paul Nothomb, grand-oncle d'Amélie Nothomb, qui dit comment Malraux dirige cette escadrille alors qu'il n'est pas pilote lui-même, grâce à son charisme, là encore, ses talents d'orateur.
Ses talents d'orateur et sa présence. On a du mal à l'imaginer parce qu'on voit souvent Malraux dans des photos extrêmement sérieux, mais Malraux a réussi à fédérer, ce qui explique très bien Paul Nothomb, ses hommes, à la fois par son courage, et un courage extraordinaire. C'est quelqu'un qui ne conduit pas l'avion, enfin qui ne va pas piloter l'avion, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à monter, à être au cœur du combat, et qui a pas peur. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui va être en première ligne. Donc, on le voit, il est présent. Il est présent par un regard, et il est présent aussi par des formes, des gestes d'amitié. Et d'autre part, il a beaucoup d'humour. C'est-à-dire qu'il est imitateur, il raconte des histoires, donc il fait rire les gens. Donc il les accueille, il est généreux. Et on a du mal à l'imaginer parce qu'on a l'image d'un Malraux qui est un peu lointain, un peu officiel. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, tous les amis qu'il a gardés témoignent de sa fraternité. Et donc il arrive à fédérer. Après qu'il n'y ait pas de discipline, ce que dit Paul Nothomb est sans doute un peu exagéré. C'est quelqu'un, Malraux a laissé ses hommes relativement libres, mais il a été exigeant avec eux. Et quand les hommes ne faisaient pas ce qu'ils demandaient ou buvaient ou finalement n'étaient pas bons et aptes au service, il n'a pas hésité à les rejeter de l'escadrille. Donc c'est quelqu'un qui a fait des arbitrages et on le retrouvera pendant la résistance, ouais. Arbitrage.
Oui, alors il va effectivement entrer dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lui, figure emblématique de la gauche, qui disait le plus grand mal du général de Gaulle, au moins en privé, eh bien il va devenir gaulliste. Ce revirement a surpris et ça lui a été reproché aussi. André Malraux entre au gouvernement en tant que ministre chargé des affaires culturelles, mais il ne va pas s'arrêter de voyager pour autant.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout.
Chanson, toi qui me parles d'elle, chanson, toi qui me...
C'était Lou Marco et Arthur H. India Song sur France Inter. La programmation musicale est signée Elsa Béranger.
Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes-mains du Quercy avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
19 décembre 1964, extrait du célèbre discours prononcé par André Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Sophie Doudet, vous avez écrit une biographie d'André Malraux aux éditions Folio. Ce discours va marquer les esprits et la mémoire collective au point presque il ne reste que ça de Malraux, en tout cas dans la plupart des têtes aujourd'hui.
Il est extrêmement beau, émouvant dans sa mise en scène, ce qu'on appelle l'actio en rhétorique. Et d'autre part, il est extrêmement bien écrit. Il participe aussi d'une mythologie qui est celle du gaullisme. D'autre part, c'est quand même aussi un cas de figure où la personne qui prononce le discours l'a aussi écrit.
Oui. Coup de pique, petite pique pour tous les autres. Quelques secondes pour essayer d'expliquer pourquoi ce revirement, pourquoi après avoir été de gauche, avoir à ce point critiqué De Gaulle, il est devenu ami avec lui, il y avait un respect mutuel et puis il est entré dans un de ses gouvernements.
À mon avis, trois éléments. L'expérience de l'Espagne où l'intervention des communistes a été jugée par Malraux, je dirais néfaste ou en tout cas contre-productive. Le pacte germano-soviétique qui a été vécu par Malraux comme un traumatisme et qui l'a fait tourner le dos au communisme. Et la rencontre pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il a été fait prisonnier avec la nation, avec le peuple français. Et donc au retour de la guerre, pour lui, la résistance, c'est De Gaulle.
Alors il voyagera jusqu'à son dernier souffle, même en dépression quand il était ministre. De Gaulle parfois le renvoie sur le terrain pour voyager. Et puis donc il meurt en 1976. Il griffonne sur un papier « Ce devait être autrement ». Il voulait dire quoi ?
La morale d'une existence, ne pas se satisfaire de sa condition, ne pas se satisfaire de sa chambre au départ. Voyager, chercher ailleurs, ne pas forcément fuir sa vie, mais s'inventer un destin. Donc, faire autre chose.
Merci Sophie Doudet. Je rappelle que vous signez une biographie d'André Malraux aux éditions Folio. Et puis, on peut aussi vous lire dans la revue de culture générale L'éléphant. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac.
Merci à vous aussi.
Dans chaque départ, il y a un retour.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Dans chaque retour, il y a un départ aussi.
Demain à 16h, pour notre dernier bivouac cosmique, nous verrons avec le physicien et écrivain Christophe Galfard à quoi pourraient ressembler les futurs vols habités vers d'autres systèmes solaires. Et puis à 17h, nous partirons en expédition sur le lac Baïkal. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Charlotte Lipinska pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Charlotte.
Bonjour Daniel.
Au sommaire aujourd'hui,
eh bien Alex Baupin et Stéphane Brisé qui viennent nous parler du cinéma américain puisqu'ils seront tous les deux jurés au festival de Deauville.
Et ils vont chanter ou pas du tout? Alors,
je sais pas, je peux leur demander, mais je ne suis pas sûre.
Pour Baupin, ça pourrait être sympa. Alors, on va vous écouter, à tout à l'heure.